chapitre 1, et on va trouver des sujets pour rendre grâce. Nos études du mercredi pendant l'été sont dans 1 Thessaloniciens. Alors, si vous êtes là aux bergeries cette semaine, on va être dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Dans les deux dernières semaines, on a fait un peu l'introduction, puis on a parlé de 1 Thessaloniciens 1, puis j'aimerais qu'on y retourne. Cette lettre qui est pleine d'affection, pleine de joie de la part de Paul pour les Thessaloniciens. Puis une église que Paul, dans un sens, a eu un ministère bref, mais un ministère tout à fait efficace. Beaucoup de gens se sont convertis. Il avait prêché seulement 3 sabbats, 3 samedis à la synagogue de Thessalonique. Puis après ça, ça a brassé. On l'a probablement mis à la porte de la synagogue. Puis ça n'a pas été long qu'il a dû quitter Thessalonique parce que il y avait de la pression des Juifs qui entendait le message de Paul, qui ne correspondait pas à ce qu'il voulait entendre, mais des gens se sont convertis. Puis Paul il est parti, puis dans un sens, il s'inquiétait de qu'est-ce qui arrive à cette jeune église à Thessalonique. Et de Corinthe, il envoie Timothée, puis Timothée revient avec des bonnes nouvelles. Le ministère était bref, mais le ministère était efficace. Les gens tiennent bon. Malgré les persécutions, malgré les afflictions, il lâche pas. Et Timothée donne à Paul un peu le compte-rendu de ce qui se passe à Thessalonique. Et Paul répond avec joie. Puis ça, c'est la lettre de 1 Thessalonicien. Il rend grâce pour les Thessaloniciens, puis pour divers sujets à travers les Thessaloniciens. Puis j'aimerais ce soir, à travers le chapitre 1, qu'on regarde différents sujets de rendre grâce, que Paul rendait grâce pour les Thessaloniciens, et on peut prendre la même chose pour nous autres, puis dire, hey, est-ce qu'on peut rendre grâce, nous aussi, de la même manière, pour les mêmes sujets que Paul mentionne aux Thessaloniciens. Alors, si vous avez trouvé 1 Thessalonicien 1, on va lire tout un chapitre, 10 versets. D'abord, on va demander la grâce de Dieu. Encore une fois, Seigneur, on ouvre ta parole, puis on voudrait qu'elle nous inspire, qu'elle nous encourage, qu'elle nous donne de lever les yeux vers ce que tu fais de beau, ce que tu fais de bien, dans nos vies comme dans la vie des Thessaloniciens, afin, Seigneur, qu'on puisse non seulement le contempler, mais te rendre grâce et apprécier les choses que tu fais pour nous. Alors, Seigneur, utilise ta parole encore ce soir. Dirige-nous pour qu'on puisse goûter ces bonnes choses que tu fais dans leur vie et, Seigneur, qu'ils puissent être appliqués pour nous. Et on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 1, on a 10 versets, je vais le lire. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous essayez de voir des sujets de rendre grâce à travers le texte parce que c'est ça qu'on va revenir. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Paul dit, je rends grâce à Dieu. Quels sont des sujets de rendre grâce qui donnent là-dedans? Et vous allez me donner la structure du message de ce soir. Pourquoi est-ce qu'il rend grâce? Pour vous tous, pour les croyants, rendre grâce pour les croyants. De quoi est-ce qu'il va rendre grâce aux croyants? Il dit, je prie dans mes prières constantes pour vous, je pense à vous autres, puis je rends grâce à vous autres, à votre sujet. Pourquoi est-ce qu'il rend grâce pour les Thessaloniciens? Pourquoi est-ce qu'il dit merci à Dieu pour les Thessaloniciens? Pardon? OK, leur foi, il y a les vertus chrétiennes qui sont... OK, la foi, la charité, l'espérance, OK? Alors, ils rendent grâce parce qu'ils sont convertis à une autre chose pour leur conversion. La fidélité de... leur fidélité? OK. La fidélité des croyants. Où est-ce qu'on voit ça, cette notion? Je pense qu'elle est là, qui rend grâce à Dieu pour leur fidélité. La fermeté, c'est ça, de leur foi. Puis, il y a des afflictions dans 1 Thessaloniciens. Puis, ils tiennent ferme. Oui, Céline? Alors, il y a la conversion, puis il y a les fruits de la conversion. À la fin des versets 9 et 10, il parle, c'est quoi la conversion? Puis au départ, il parle des fruits de la conversion. Foi, espérance, charité. D'autres choses qui remercient le Seigneur. Les sujets, OK, ils sont devenus des imitateurs. Hey, ça, c'est quelque chose. Il a prêché l'Évangile, ils se sont convertis. Puis ces gens-là sont devenus des imitateurs. De qui? Du Seigneur Jésus, puis du prédicateur, de Paul, de Sylvain, de Timothée qui étaient là, des imitateurs des évangélistes, puis des imitateurs de Jésus. Et il dit, waouh, c'est très bien. Ils ont imité, puis après ça, ils sont devenus eux-mêmes des modèles, puis des modèles de quoi? De croyants. Ils ont entendu l'Évangile. Puis eux autres sont devenus des modèles pour faire pareil comme ce qu'ils avaient entendu. Des modèles de quoi? OK. Le mot persuasion arrive là quand il dit on sait que vous avez été converti, vous avez été élu parce qu'on a vu l'œuvre de persuasion de Dieu dans vos vies. Mais ils sont devenus des imitateurs parce qu'eux aussi se sont mis à partager le même message qu'ils avaient reçu. Ils faisaient de l'évangélisation, eux aussi. Puis c'était de l'évangélisation timide, avec puissance. Puis comment ça se manifestait, ça, cette évangélisation-là qu'ils mentionnent? Pardon? OK. C'est ça, dans leur témoignage, de sorte que Macédoine, Achaïe, toute la Grèce au complet, le nord, le sud, de sorte aussi que les gens, ils disent partout, on entend parler de vous autres. On raconte à votre sujet qu'est-ce qui est arrivé, puis tout le monde a entendu comment ministère. Moi, j'ai un, deux, trois, quatre rangs de grâce. Que je vois dans ces textes-là, rendre grâce pour la conduite des croyants, on va regarder ça un petit peu, rendre grâce pour l'évidence de l'élection, hey, vous avez été élu, c'est clair, et là, il va nous montrer comment l'élection s'est manifestée, rendre grâce pour l'espérance chrétienne, attendre des cieux, les versets 9 et 10, puis, puisque c'est le 1er juillet, j'ai ajouté, rendre grâce pour la liberté chrétienne au Canada. Mais ça, c'est une application du texte. Parce que eux autres, il n'y avait pas la liberté que l'on a. Ils ont persévéré malgré la difficulté. Mais d'abord, rendre grâce pour la conduite des croyants. Alors, vous l'avez mentionné dans le verset 2 et 3. Il rendait grâce parce qu'il avait communiqué l'Évangile, puis l'Évangile les avait transformés de sorte qu'il y avait une conduite qui manifestait les vertus chrétiennes. Et trois grandes vertus cardinales, la foi, l'espérance, la charité, l'amour, trois grandes choses. Il l'a mis dans une position inverse, différente de 1 Corinthiens chapitre 13 quand il le mentionne. Il dit la foi, l'amour et l'espérance. La foi dans la personne du Seigneur Jésus d'abord, qui ont eu dans le passé, l'amour qui est présent, qui est à l'œuvre, qui est à l'action, et puis l'espérance qui lâche pas pour le futur. Ça, c'était les vertus chrétiennes qui manifestaient. Puis c'était pas juste des beaux mots pieux. Amour, foi, espérance, charité, mais chacun des trois, il a mis ça en parole qui bouge, pas quelque chose de passif. Qu'est-ce qu'était la foi? Quel mot qui est attaché à la foi? L'œuvre de votre foi. Votre foi est à l'œuvre. Peut-être qu'elle est en train de partager votre foi à d'autres personnes, mais elle est à l'œuvre. Il a parlé de l'amour. Puis il dit l'amour est au travail. Et c'est en action, l'amour. Et il parle aussi de l'espérance ferme. Qu'est-ce que cela fait, la fermeté avec l'espérance? Inébranlable, certainement. C'est ça. Le reste. Quand est-ce qu'on a besoin d'espérance, plus? Quand on est découragé? Quand il y a des choses qui nous font descendre, il faut s'accrocher. L'espérance est une ancre de l'âme solide et sûre. Quand venaient les difficultés, quand venait l'affliction, il dit, hey boy, les Thessaloniciens, vous demeurez fermes dans l'espérance. C'était quoi l'espérance qu'il y avait? Le retour de Jésus-Christ. Peut-être la délivrance présente, mais plus particulièrement le retour de Jésus-Christ à la fin de 1 Thessaloniciens 1. Rendre grâce pour la conduite des chrétiens, leur vertu chrétienne, verset 6, vous l'avez mentionné, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, ils se sont mis à imiter Jésus, puis à imiter les évangélistes qui étaient venus avec eux, vers eux, Timothée, Paul, Silas. Est-ce qu'il y avait eu la vie facile, eux autres, à partager l'Évangile? Il y a deux semaines, on voyait comment l'Église s'est commencée dans le mercredi, puis ils arrivaient de où quand ils sont arrivés à Thessalonique? Ils arrivaient de Philippe, puis il y avait eu une belle expérience très joyeuse à Philippe, vous vous souvenez? Hein? Ça n'avait pas bien été. Mais il y en a deux qui se sont convertis, merci Seigneur, mais c'était à coup de misère. Qu'est-ce qui est arrivé encore, souvenez-vous rapidement? Il a fait de la prison. Hein? Il avait été voir, il n'y avait pas de synagogue là, il a prêché sur le bord d'une rivière, Lydie s'est convertie, il était bien content, puis là, il y a une fille possédée d'un esprit qui l'étane, puis Paul, il exorcise la personne, puis les propriétaires, il dit, « Hey, je viens de perdre mon cash pour mon revenu, fait que là, il court, puis ils font une grosse manifestation, finalement, ils se font fouetter, ramassent en prison. » Et que c'est dans le fun de prêcher l'Évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. C'est pas sans douleur. Puis là, finalement, ils sortent, puis là, ils vont dans une autre ville, à Thessalonique. Ça dure 3 samedis, puis il y a encore la pagaille qui pogne. Alors, j'imagine que les chrétiens qui ont dit, « Hey boy, lui, là, il m'a envie de la misère à Philippe, puis il s'en vient à Thessalonique, puis plus loin, il va aller à Béré la prochaine fois. Là, il va être bien accueilli, mais ça va encore avoir de la misère. Ils vont encore être obligés de l'envoyer. » Les croyants, ils sont devenus des imitateurs de Paul. En quoi est-ce qu'ils étaient des bons imitateurs de Paul? Le courage, hein? Au sein des afflictions, ils n'ont pas lâché eux non plus. Ils ont pris le même flambeau que Paul, puis ont dit, si l'affliction, ça nous arrête pas. On va continuer à imiter Jésus. Jésus, as-tu été sans douleur, lui aussi, le fait de nous donner l'Évangile? Non plus. Ils ont imité les évangélistes, ils ont imité aussi le Seigneur Jésus, en demeurant ferme, en persévérant dans leur affliction, à continuer de vivre pour Dieu. Puis versets 7 et 8, à être des témoins de leur foi. Il dit, en sorte que vous êtes venus un modèle. La parole a retenti chez toi, puis de chez vous, elle s'est transportée, là, de Thessalonique, c'est en Macédoine, à travers toute la Macédoine, puis plus bas, l'Achaïe, la Grèce, dans le temps du 1er siècle, la Macédoine est au nord, puis l'Achaïe était au sud, mais aujourd'hui, on appelle tout ça de la Grèce, mais elle s'est répandue jusqu'au bout de la Grèce. Et Paul est à Corinthe quand il écrit la lettre, il y a des échos à Corinthe de ce qui s'est passé à Thessalonique, beaucoup plus au nord. Ils sont devenus des modèles pour témoigner leur foi. Paul y rend grâce pour ces gens-là. Est-ce que nous, on peut rendre grâce aussi pour les croyants? Dire, Seigneur, merci pour les croyants, quand on pense à des frères. Pas juste, Seigneur, prier pour ceux qui ont de la difficulté et qui vivent dans le péché ou qu'on voudrait qu'ils sortent, mais dire, Seigneur, merci pour les croyants. Et se rappeler les vertus qu'ils ont, leurs vertus, leur comportement, leur témoignage. Merci, Seigneur, pour ces croyants-là. On peut le faire comme Paul le faisait pour les Thessaloniciens. Rendre grâce pour les croyants, pour ce qu'ils font, pour comment ils témoignent leur foi, pour les vertus qu'ils manifestent à travers leur vie. Rendons grâce à Dieu pour ça aussi. Puis une autre raison pour rendre grâce, il dit au verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. » Paul rendait grâce aussi pour l'évidence de l'élection des Thessaloniciens. L'œuvre de l'élection, c'est quelque chose qu'ils pouvaient voir? Ça se voit-tu sur l'élection? C'est quoi sur l'élection? Aller voter, c'est ça. Mais tu vas voter, puis après ça, tu sais si t'es élu ou si t'es pas élu, hein? Parce que l'élection, c'est d'abord, c'est quoi? C'est un choix. T'as choisi mais c'est qui fait ce choix-là? C'est Dieu. Est-ce qu'on le voit, ça? On voit les résultats. Alors, Paul, il dit, je rends grâce à Dieu pour, c'est évident que vous avez été élus. C'est évident que Dieu vous a choisi. Comment est-ce que c'est évident que Dieu les a choisis? Ouais, hein? Quelle sorte de résultat? Qu'est-ce qui était visible dans le fait qu'il était élu? Bon, la transformation, je vais parler du mot conversion, ça c'est la réponse humaine. Hein? Les gens se sont convertis, se sont détournés, puis là, il y a trois éléments qu'on peut voir tout de suite. La conversion, c'est quoi? Alors, l'élection a été visible par la conversion. La conversion, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu, à l'élection de Dieu. Et ça s'est manifesté. Vous êtes converti à Dieu. Puis là, il dit trois choses. En abandonnant les fausses notions, se mettre à marcher avec Dieu, servir Dieu. Puis l'espérance encore. Attendre le Fils. C'est encore la notion de foi, amour, espérance, mais d'attendre. Ça, c'est l'élection. Elle est évidente dans la transformation des croyants. Mais il a mentionné deux choses avant ça. Vous êtes arrivé au troisième, vous êtes arrivé à la transformation. Il dit que c'est notre évangile, elle a dit, je sais que vous avez été élus, parce que... Comment est-ce... Hein? Bon, deuxième élément, l'Esprit-Saint a travaillé de façon évidente. Vous êtes retourné, vous êtes converti. Mais l'Esprit-Saint a travaillé de façon évidente. Comment? Comment que ça dit ça? OK. Il y a eu une pleine persuasion. C'était avec l'Esprit-Saint. On a vu que la parole de Dieu a eu un effet sur vos vies. Dieu a... Le Saint-Esprit a agi avec puissance. Comment est-ce que je sais l'élection? On y va de reculons, ça s'en va. Mais comment est-ce que je vois l'évidence de l'élection? La transformation des croyants. L'œuvre de l'Esprit qui est évidente dans le cœur des personnes. Mais pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse au départ? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive? Verset 5. Notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour que les Thessaloniciens se convertissent? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive en premier? Il faut qu'il y ait la prédication. La prédication de la parole de Dieu, la prédication du message de l'Évangile, qui était évidemment différent de l'ancienne alliance qui était dans les synagogues. Ils ont présenté Jésus. L'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, le Messie et le Seigneur. Ça, c'était le message que Paul apportait dans les synagogues, dans Actes chapitre 17, la synagogue de Thessalonique. Où la puissance de conviction de l'Esprit de Dieu, 1 Thessaloniciens 2:13, il dit « Quand on était parmi vous », c'est un verset que j'aime beaucoup, je le répète souvent, « Quand on était parmi vous, puis qu'on vous a prêché l'Évangile, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, Paul avait la notion très claire que quand il a prêché la parole de Dieu, puis il a vu la parole de Dieu à l'œuvre dans ceux qui l'écoutaient. Si on se rappelle, quand il était à Philippe, sur le bord de la rivière, il a prêché, puis il a vu l'œuvre du Saint-Esprit. Il y avait Lydie qui était là. Qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Comment est-ce qu'il a vu ça, lui? Mais il a vu dans la personne de Lydie un changement que l'Esprit de Dieu était en train de faire dans sa vie. Ça devenait évident. Comment est-ce que l'on voit l'évidence de l'élection? L'œuvre de Dieu, l'élection, c'est ce que Dieu fait, mais ça se manifeste d'abord par la prédication de la parole. Comment est-ce que je veux savoir si les gens sont élus? Bien, je vais prêcher. Hein? Paul, il dit, Dieu dit à Paul un soir, « Prêche parce que j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville-là. » Dieu le savait, il l'avait élu, mais comment est-ce qu'on sait qu'ils sont élus? On prêche. Puis là, on a une réponse. Puis là, on commence à avoir une petite idée. S'ils sont élus ou ils ne sont pas, on ne peut pas juste attendre que ça se manifeste. Paul, il n'a pas juste attendu, il a prêché. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tournez 1 Corinthiens 1:21. Nos textes qui dit la même chose. Dieu a choisi de sauver les croyants. On va le lire. Par la folie de la prédication. Quelqu'un peut lire le verset 21 de 1 Corinthiens 1? Oui, Jacinthe. Dieu a décidé de sauver des personnes. Il a décidé de sauver par deux moyens. Il a sauvé quoi? De sauver qui dans le texte? Des croyants. Des gens qui se convertissent, des gens qui mettent leur foi en Dieu. Puis de sauver aussi par quel moyen? La prédication. Alors, Dieu a élu des gens. Comment ça se manifeste? La prédication de l'Évangile, la proclamation du message de l'Évangile et l'activité de l'Esprit dans le cœur des gens, la conviction de l'Esprit. Dieu travaille quand il prend la parole puis il l'applique au cœur. Et finalement, par la conversion, la réponse humaine à l'appel de Dieu, le demi-tour. Et des beaux versets, hein, les versets 9 et 10, lorsqu'il nous parle de la conversion. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant demi-tour, en abandonnant les idoles, les divinités étrangères, les fausses doctrines. Et puis, vous êtes converti à Dieu. Vous avez abandonné, puis vous êtes tourné vers le Dieu vivant et vrai. Pas juste pour le regarder, par exemple. Pas juste pour le contempler. Mais pour faire quoi? Pour œuvrer, pour le servir. Pour servir. Vous êtes détourné des idoles, puis vous êtes mis à servir Dieu. Puis il y a une troisième chose, la caractéristique des chrétiens, bien différente de toutes les religions du monde. Le retour. Nous croyons au retour du Messie, au retour personnel, retour glorieux du Seigneur Jésus, et on va attendre des cieux son Fils, et c'est un sujet qu'il va garder en tête longtemps, dans 1 Thessaloniciens. Alors, rendons grâce à Dieu pour l'Évangile, pour le fait que l'Évangile nous a été amené, pour le message de la Nouvelle Alliance, un message qui était différent de l'Ancienne Alliance. l'évangile. Et Paul, il dit « notre évangile ». C'est-tu lui qui l'a inventé, cet évangile-là, verset 5, 1-5? Il dit « notre évangile ». En quoi c'était son évangile, sa bonne nouvelle à lui? Il se l'est d'abord approprié, c'est ça. Regardez chapitre 2, verset 2. Ce ne sera pas juste son évangile. Et dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Ah, ça a son origine en Dieu. Regardez chapitre 3, verset 2. Puis là, c'est l'évangile de qui? C'est contradictoire, cette affaire-là. L'évangile de Paul, l'évangile de Dieu ou l'évangile de Christ? En quoi c'est le même évangile? Notre évangile, c'est l'évangile de Paul parce que, comme Claude le dit, il se l'est approprié. C'est l'évangile de Dieu parce que Dieu, c'est la source, c'est lui qui l'a donné. Puis c'est l'évangile de Christ parce que c'est lui qui l'a accompli, c'est lui qui a payé pour cet évangile-là. C'est lui le rédempteur. Alors, c'est l'évangile de Paul. C'est l'approprié. C'est l'évangile de Dieu, c'est la source, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix. Et c'est un évangile différent. Quand il était... Tournez dans Actes chapitre 17. Actes 17. Actes 17, c'est l'histoire de comment l'évangile est arrivé à Thessalonique. Quelques... 17, les versets 3, excusez-moi, il disait, ok, versets 6 et 7. Quelqu'un peut lire les versets 6 et 7? Quand ils ont prêché l'Évangile? Vas-y, Lisette. Alors, leur message était différent de qu'est-ce que les Juifs entendaient. Ils annoncent un autre roi. Ils annoncent un roi qui s'appelle Jésus. Et puis, aux Juifs, au verset 2, pendant trois sabbats, ils discutent d'après les Écritures juives, puis ils expliquent que Christ, le Messie, il devait souffrir, puis il devait ressusciter des morts, puis que c'est lui qui le crée, c'est Jésus qui le crée. Ça, les Juifs avaient de la misère à comprendre ça. Est-ce qu'ils acceptaient facilement que le Christ devait souffrir? Est-ce qu'ils acceptaient facilement qu'un homme allait mourir puis ressusciter des morts? C'était pas trop connu dans l'Ancien Testament, mais que c'était ce Jésus-là qui s'était vraiment arrivé, puis que c'était lui le Christ. Le message de la Nouvelle Alliance est différent de l'Ancienne Alliance. Rendons grâce pour le message de l'Évangile. Rendons grâce aussi pour la transformation que l'Évangile fait dans nos vies. Elle fait en sorte que nous servons maintenant le Dieu vivant, et elle fait en sorte que nous servons avec persévérance en attendant le retour du Seigneur. Rendons grâce aussi dans le 1 Thessaloniciens pour l'espérance chrétienne. Verset 10. Non seulement il dit pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, mais qu'est-ce qui va faire de différence, ce Fils-là qui est ressuscité des morts, puis qui va revenir puisqu'on l'attend? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, il va nous délivrer, qui nous délivre de la colère à venir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça l'enseigne, cette notion-là? Où est-ce qu'on s'en va sur la terre? Pardon? Oui, on est des pécheurs, puis il y a un moment de justice qui va arriver, de jugement. Et puis, moi je suis pécheur, puis toi tu es pécheur, alors on va être bien mal à manger. Mais on attend Jésus qui va venir, pas comme un juge, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous délivre de la colère à venir. Elle va tomber sur qui? Sur les impies, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se sont pas convertis, justement. Et nous, Jésus, on l'attend et c'est lui qui vient nous délivrer de la colère qui va venir plus tard. Et cette notion-là du retour de Jésus-Christ, de l'espérance chrétienne, chaque chapitre, Paul n'a pas écrit en divisant des chapitres, mais chaque chapitre, il y a une mention systématique du retour de Jésus, puis la différence que ça va faire, l'espérance chrétienne qui va nous apporter. C'est-tu notre espérance aussi? Ce monde ne s'en va pas vers le meilleur, de ce que je comprends. Mais il y a quelqu'un qui vient bientôt puis qui nous délivre de la colère à venir. La colère que l'humanité va avoir récoltée, mais va avoir semée. Mais Jésus revient pour nous enlever de ça avant la colère finale. Gloire à Dieu pour ça. Alors, ça nous permet, même si les afflictions sont là, de continuer parce que Jésus vient pour nous prendre. Quatrième, dernière chose, rendre grâce aussi pour la liberté chrétienne qu'on a au Canada. Où je prends ça? J'ai vu le verset 6, je méditais là-dessus. Il dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. » Les Thessaloniciens ont accueilli la parole au milieu d'un peuple qui résistait à ça, comme on a vu dans Actes chapitre 17, qui disait, « Hey, ces chrétiens-là, là, ils disent qu'il y a un autre roi. » Ça marche-tu bien, ça, dans la société romaine? Il y a un autre roi, puis il s'appelle Jésus. C'était criminel. Et ils étaient persécutés parce qu'ils adoraient un autre roi. Êtes-vous persécutés parce que vous adorez Jésus? Vous? Est-ce que c'est criminel dans notre société? Je pense pas. Peut-être que ça s'en vient. Mais présentement, c'est pas criminel. En tout cas, je peux parler librement de Jésus sans me faire mettre en prison. La génération d'avant, il y en a quelques-uns. Monsieur Héron, qui d'autre était là? Monsieur Keith aussi. Monsieur Keith, Monsieur Héron, Asbestos. C'est pas loin d'ici, là. Ils ont été mis en prison. Parce qu'ils ont été avertis de ne pas témoigner de leur foi, ou pas donner de traité à des gens sur le bord de la rue, puis ils ont insisté et ils ont été mis en prison, puis ça a fait la manchette certainement, puis ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont persévéré par la foi. Mais on a une liberté. Et quand je pense, c'est le 1er juillet, certains, c'est la fête du Canada, mais quand je pense à l'endroit où nous sommes, on a beaucoup à rendre grâce pour non seulement la liberté que l'on a présentement, mais l'héritage de notre société. On a un héritage qui est bien diffusé. Allez, regardez l'Afghanistan, l'Inde, les autres pays, puis on a un héritage judéo-chrétien qui est bon pour nous. On vit dans un pays où, justement, je peux aller à l'élection, je peux avoir un gouvernement qui est élu. Un gouvernement qui nous ressemble. En réalité, là, si on avait une société qui était plus juste, plus honorable, on aurait probablement des représentants au Parlement qui manifesteraient davantage nos propres valeurs. Mais on a un gouvernement qu'on peut choisir. Ça, c'est une liberté formidable. Là. Il n'y a pas grand pays dans le monde qui peuvent choisir leurs dirigeants. Et en même temps, les valeurs de nos dirigeants. Moi, je remercie d'être au Canada pour la justice qui est recherchée. Je ne dis pas que la justice est appliquée. Il y a plein d'injustices. Mais on vit dans un pays où c'est possible de rechercher la justice, d'en appeler quand il y a de l'injustice. Beaucoup de pays n'ont pas cette possibilité-là. Il y a de l'injustice qui est faite. On ne peut pas en appeler. Tu t'avales ta pilule, puis c'est tout. Ici, on peut rechercher la justice. On dit qu'en cours, il y a encore une présomption d'innocence, que la personne est considérée innocente à la base, avant qu'on prouve le contraire. C'est ce qu'on croit encore. On a une justice qui est recherchée, la compassion qui est encouragée. Et ça, c'est de plus en plus populaire, on dirait, dans notre société, de plus en plus opulente, je dirais, on manifeste une valeur de compassion au monde. On fait des marches pour tel bénéfice, des télétons pour les enfants maladifs, des fondations, des hôpitaux, des camps de jeunes. On vit dans une société où on encourage la compassion. Et ça, c'est un héritage que l'on a de nos arrière-plans du christianisme, où on recherche à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si ce sont des pays bouddhistes, par exemple, l'hindouisme, mais c'est toute la notion du karma. T'as ce que tu mérites. Ça va pas bien aujourd'hui, ben c'était ta vie d'avant qui était pourrie, fait que là tu récoltes. Fait que ça, faut même pas que je t'aide parce que je vais nuire à ta restauration. Si je suis musulman puis je vois quelqu'un qui est dans la misère à côté, ben Inch'Allah, c'est la volonté de Dieu pour toi. On peut rien y faire, ça sert à rien que je t'aide. Alors la notion d'hôpitaux puis d'œuvre de compassion là, c'est caractéristique de nos pays influencés par le christianisme. On a la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, on valorise des idées, on a le droit de parler et d'amener de nouvelles idées. Dans des pays où tu ne peux pas ouvrir ta bouche contre le premier ministre parce que tu vas te faire empoisonner, ce ne sera pas long, puis ça arrive, ça fait pas tellement longtemps que c'est arrivé. Là. On peut dire des choses, on peut avoir une liberté d'expression. Si je travaille, ben il y a encore une valorisation au travail. Ce qui est différent dans bien des pays. Je dis pas juste nos libertés que l'on a, mais on n'est pas tombé dans le pire des pays en ce qui concerne les ressources naturelles, en ce qui concerne l'environnement. Là, on est vraiment un pays merveilleux. C'est pas les ressources qui manquent, l'eau qui va venir. On va être un des derniers pays, j'ai l'impression, à manquer d'eau. On a encore de l'air, on a encore des forêts, on a encore beaucoup de qualité dans le sous-sol. Rendons grâce pour l'abondance et la liberté que l'on a au Canada. Êtes-vous d'accord avec ça? Rendons grâce pour ça, parce que les choses peuvent changer rapidement. Rendons grâce sans cesse. Bien peu de ce que nous jouissons aujourd'hui est le résultat de nos propres efforts. Je lisais un commentaire, ça fait quelques temps, ça parlait d'une personne qui répondait aux athées. Souvent, les athées sont... Il y a beaucoup de les nouveaux environnementalistes, il y a beaucoup d'athées ou d'anarchistes, de gens qui ne veulent pas de gouvernement, qui veulent... Et la personne répondait en disant, faisons attention avec cette notion de laisser tout faire, parce qu'on vit les bénéfices de l'investissement de la génération précédente. Beaucoup d'anarchistes aujourd'hui se sont dit que arrêtons ci, arrêtons ça, vivons avec ce que l'on a, mais en même temps, planifions pas pour demain, planifions pas pour le futur, prenons le meilleur d'aujourd'hui, puis ça, c'est pas tout à fait correspondant avec l'héritage que l'on a reçu. On a reçu un héritage où les gens ont fait pour le mieux de demain, ont acquis des libertés ces libertés que l'on parle. Si on n'avait pas été en guerre, je vais parler pour la guerre, mais si on n'avait pas été en guerre pour protéger notre liberté d'expression, si on avait dit, hey, restons tranquilles, permettons rien à nos gouvernements, ben aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas l'occasion de prêcher l'Évangile comme c'est fermé dans d'autres pays parce qu'on n'a pas défendu la liberté. On vit dans un pays d'abondance, puis comme pour un Thessalonicien, on peut rendre grâce. Rendons grâce pour les croyants. Rendons grâce pour la liberté chrétienne que nous avons. Rendons grâce pour l'Évangile qui est venu dans nos vies. Rendons grâce pour l'espérance que nous avons, pour l'éternité de vivre avec Dieu. Et puis si on rend grâce pour toutes ces bonnes choses-là, bien peut-être qu'on va crier à Dieu plutôt que de se plaindre, parce qu'on a tellement de bonnes choses ici. Seigneur Dieu, merci pour ton abondance. Une abondance qu'on ne mérite pas plus que toutes les autres personnes sur la planète. Mais Seigneur, tu nous as placés dans un bon pays. Tu nous as donné la grâce d'être un pays où on pouvait parler de toi. C'est pour ça qu'on a entendu parler de toi. Et Seigneur Dieu, merci pour le fait que ton évangile a transformé nos vies. Sans toi, Seigneur, on serait sans direction, perdu, sans Dieu dans le monde, sans espérance. Mais Seigneur, tu es venu donner la direction, tu es venu donner l'espérance dans nos vies. On veut t'en remercier. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour les croyants, pour le fait qu'ils partagent ton nom, pour le fait, Seigneur, qu'ils manifestent les vertus qui étaient en toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, donne-nous de rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. tu es un Dieu tout bon. Et nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Amen.
On va rendre grâce à celui qui nous aime. On va se lever.